Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Radio Alpa 107.3 Le Mans. Bienvenue en Asialogie, l'émission qui vous embarque pour un voyage lointain aux confins du monde en Extrême-Orient. À la technique, mon compagnon de voyage Didier. Bonjour Didier.
Bonjour Corinne, bonjour tout le monde.
Alors ce 31e épisode d'Asialogie est consacré de nouveau à la calligraphie, Didier.
Oui, ça j'aime bien.
Et particulièrement à celle d'une très grande artiste française, Fabienne Verdier, la seule maître calligraphe consacrée par la Chine.
D'accord.
Et toi Didier, bah, tu vas nous parler de ces femmes samouraïs que l'histoire a un petit peu oubliées.
Exactement. Mais d'abord, je vais découvrir avec toi cette femme que je ne connaissais pas. Et aimant la calligraphie, ça m'intéresse beaucoup.
Donc Fabienne Verdier.
Avant par contre de parler de Fabienne Verdier, est-ce que tu peux nous parler du matériel nécessaire pour pratiquer la calligraphie chinoise?
C'est vrai qu'on n'en avait pas parlé dans notre dernière émission. Alors avant de parler du matériel, je vais faire quand même un petit rappel. C'est la calligraphie chinoise est un art vieux de 3000 ans qui occupe une place centrale dans la culture chinoise et elle est fortement influencée, cette calligraphie, par le confucianisme,
d'accord,
le taoïsme et le bouddhisme, Didier.
Okay.
Elle est un moyen d'exprimer l'harmonie entre l'homme et la nature, très important pour la suite. Alors ce n'est pas seulement une écriture, la calligraphie, c'est un mode d'expression artistique qui va refléter la personnalité et l'émotion de l'artiste. Mmh. Alors il y a plusieurs styles de calligraphie artistique. Il a le Xinchu, une écriture qui est semi-cursive,
Je crois voir ce que c'est le caoutchouc, mais ça n'a pas rapport.
On en parlera plus tard du caoutchouc. Donc c'est le caoutchouc. Alors c'est peut-être saoutchouc, on dit en chinois. Faudrait que je me renseigne.
Alors les auditeurs savent que je ne vais pas te reprendre là-dessus.
Oui, des fois ça me fait du bien de savoir que tu ne vas pas le faire. Alors voilà, donc le... Je dirais Caoshu, oui. Ça s'écrit Caoshu hein, en pinyin. Une écriture cursive, très fluide, difficile à lire pour les non-initiés. Il y en a qui nous paraissent un petit peu tarabiscotés, je dirais. J'aime pas trop ce mot-là, mais ouais. C'est vrai que ça semble très compliqué quand même, à dissocier les traits. Donc ça, c'est cette écriture-là. Mais elle est appréciée énormément des artistes pour son expressivité. Et la calligraphie chinoise, comme la japonaise, s'écrit le plus souvent verticalement, de droite à gauche. Et l'écriture normale, et ça c'est important de le savoir,
ouais,
elle est horizontale de gauche à droite, comme la nôtre.
Ah d'accord.
Et oui, la calligraphie artistique se pratique à l'ancienne, de droite à gauche et verticale. C'est à ça qu'on reconnaît la vraie calligraphie artistique.
Ok.
Voilà, donc le matériel est traditionnel et a peu évolué. Ce sont les quatre trésors du lettré. Voilà.
Okay.
Alors, le premier trésor, c'est le pinceau, l'outil principal qui permet une grande variété de traits. Alors, il y en a des plus ou moins épais, bien sûr, des pinceaux.
Mmh.
Alors, son manche est en bambou, en bois, en ivoire ou en os.
Ah, aussi.
Avec une pointe faite de poils d'animaux. Alors là, c'est variable. La chèvre, le lièvre, le cheval, la belette ont des poils qui servent pour faire les pinceaux.
Okay.
Et selon l'animal, la souplesse du pinceau va varier, ce qui va permettre plus ou moins de précision et d'intensité dans le trait, selon la pression exercée, l'angle et la vitesse d'écriture.
D'accord.
Rien que ça.
Eh bien, bon, alors on parle du pinceau, mais j'imagine que le deuxième trésor du lettré, c'est l'encre. De quelle sorte d'encre on a besoin, Corinne, pour faire de jolies calligraphies?
Tu as raison, le deuxième, c'est bien l'encre. Et l'encre est souvent noire. Alors, elle est sous forme de bâton, fabriqué à partir de la suie de pin, de pin PIN, de l'arbre,
ou
d'huile, de la suie d'huile végétale, mélangée à de la colle de collagène d'animaux.
D'accord.
Et pour écrire, il faut frotter le bâton d'encre, sur une pierre avec un peu d'eau pour produire une encre fluide. Alors, plus ou moins fluide,
d'accord,
selon la quantité d'eau.
Okay.
Alors, on peut aussi utiliser une encre liquide aujourd'hui, ça existe, c'est plus pratique.
C'est comme ça que je connais, moi.
Mais c'est de moins bonne qualité, Didier, que la vraie encre qu'on fabrique avec sa pierre à encre.
Oui, mais ma qualité de calligraphe n'étant pas non plus optimum, c'est pas grave.
Oui, j'imagine que pour faire la différence, il faut déjà avoir une très grande technique.
Tout à fait.
Alors bien sûr, on s'en doute, la dilution a son importance pour créer des effets d'ombre et de lumière. C'est un petit peu comme l'aquarelle, je dirais.
D'accord.
Et la pierre à encre, c'est bien sûr Le troisième trésor, donc le premier, le pinceau, le deuxième, l'encre, le troisième, la pierre à encre.
D'accord.
Et il en existe plusieurs types, hein, en schiste, en jade, en porcelaine, même en or ou en pierre volcanique, plus simplement, et, ou en ardoise aussi.
Okay.
Certaines pierres à encre sont de véritables œuvres d'art, il faut le savoir, et
ouais,
ça peut coûter très très cher.
Je suppose. Alors, je suppose aussi qu'il y a un quatrième trésor, parce que celui-là...
Oui, j'ai dit qu'il y en avait quatre.
Ouais, je le connais.
Quatre trésors.
Je le connais un peu plus, il m'intéresse beaucoup aussi, pour d'autres choses, le papier, voilà. Et alors, quel papier pour la calligraphie?
Alors bien sûr Didier, tu as tout à fait raison, c'est le quatrième trésor, le papier. Et celui qu'on utilise en calligraphie, c'est du papier de riz. Mais en fait, il n'est pas fait vraiment à partir de riz, en tout cas pas entièrement. Il est fabriqué à partir d'écorces d'arbres.
D'accord.
Et c'est un papier très léger, absorbant et lisse.
Mm-hmm.
Et on utilise du papier fin pour des tracés plus nets et du papier plus épais pour les tracés avec plus de texture.
Ouais.
Et il faudra aussi un presse-papier pour empêcher le papier de bouger et de s'enrouler. Et aussi un support de pinceau pour poser son pinceau, un support de pinceau vertical.
Mm-hmm.
Voilà, et pour terminer... Un seau, S-C-E-A-U, et de l'encre rouge pour signer son œuvre.
Ah oui.
Pour faire des petits carrés
bien sûr.
Avec
les
caractères à l'intérieur avec son nom.
D'accord. Bon alors, c'est un art difficile, ça j'en doute pas du tout, la calligraphie. Il faut avoir une grande technique, je suppose, enfin, ça doit être assez difficile.
Oui, il faut beaucoup de concentration, de patience et une grande technique, c'est un long apprentissage. Donc je parle bien sûr de calligraphie chinoise, il y en a peut-être des plus simples.
Ouais.
Et en tout cas, c'est celle que je connais le mieux, mais que je connais le mieux en théorie.
Mm-hmm.
Et il faut d'abord acquérir la posture et la tenue du pinceau. Alors moi, j'ai travaillé ça, j'ai pris quand même quelques cours de calligraphie.
Ah, très bien.
Et rien que pour faire un trait, en plusieurs séances, je n'ai jamais réussi à faire le trait comme il fallait.
D'accord.
Non.
Okay.
Un trait qui soit vertical ou horizontal, hein. Le point non plus.
Mm-hmm.
C'est vraiment une très grande.
Il faut une maîtrise.
Il faut très bien se tenir, il faut se concentrer, il faut bien tenir son pinceau, il faut respirer. Enfin voilà.
C'est un tout.
C'est un tout. Voilà. Et on peut se mettre aussi debout pour plus d'aisance. Pardon.
Mm-hmm.
Alors on tient le pinceau verticalement, très important, entre le pouce, l'index et le majeur.
Ouais.
Et avec des mouvements qui viennent du poignet et du bras, pas seulement des doigts. Et ça c'est très important en fait, on bouge moins les doigts que la main et le poignet, pour plus de souplesse.
Mm-hmm.
Alors tous les caractères chinois sont construits à partir de traits fondamentaux qu'il est essentiel de maîtriser, ce que je n'ai pas réussi à faire,
mm-hmm.
avant d'écrire des caractères complexes. On peut pas, si on copie un caractère comme ça,
ça
ne marche pas.
Il
faut maîtriser le point et le trait, mm-hmm. voilà. Et ça exige en fait une pression constante du pinceau. Il faut aussi ensuite, une fois qu'on a maîtrisé le point et les traits, seulement, le trait, un seul.
Mmh.
Et il y a le crochet, c'est le petit mouvement de lever du pinceau.
Oui.
Donc ça, c'est la quatrième chose à maîtriser.
Mmh.
Ensuite, les traits obliques, qui nécessitent une variation de pression pour donner de la dynamique. Donc ça, c'est encore un niveau au-dessus. Et les traits combinés, là où il y a plusieurs traits dans un même caractère.
Alors là, je comprends.
C'est bien sûr forcément... plus compliqué.
Bien
et bien sûr, autre chose à savoir faire, c'est doser l'encre.
Eh oui.
Apprendre à calligraphier, c'est imiter dans un premier temps.
Oui.
C'est recopier d'abord des traits, puis des caractères, puis des modèles de maître avant de développer son style personnel.
Ouais, c'est ça, c'est comme...
C'est un travail de toute une vie.
Oui, c'est ça. Puis c'est comme toute technique, il faut apprendre pour pouvoir après se libérer de ce qu'on a appris.
Exactement. Et c'est ce qu'a fait pendant des années Fabienne Verdier.
D'accord.
Et avant de parler d'elle, on va écouter René Liu.
Oui.
C'est une chanson chinoise.
Oui.
Hou来,我总算学会了如何去爱, 可惜你早已远去,消失在人海. Hou来,终于在眼泪中 有些人一旦错过就不再栀子黄白花瓣落在我蓝色百褶裙上爱你你轻声说 仲夏，你吻我的那个夜晚，让我往后的时光每当有感叹。
Alors vous étiez avec René Liu,
très joli René Liu, hein.
À continuer à découvrir en dehors d'Asiologie, parce que là on va revenir à la calligraphie, et là on va plutôt découvrir le travail de Fabienne Verdier. On la connaît un peu tout de même.
On la connaît un peu, mais ouais, que un peu, pas assez je trouve en France.
Et bien justement, on est là pour ça.
Mais pourtant, c'est une grande maître calligraphe et une très grande artiste peintre reconnue dans le monde entier, chères auditrices et auditeurs. Fabienne Verdier est née en 1962, donc elle est relativement jeune, je trouve.
Oui, je trouve aussi.
Et elle a vécu en Chine pendant 10 ans pour apprendre la calligraphie chinoise,
d'accord,
approfondir ses connaissances dans l'art et la philosophie orientale dans des conditions extrêmement dures. Elle a raconté son histoire dans un superbe livre paru en 2003 qui s'appelle « La passagère du silence », un des plus beaux livres que j'ai lus.
Ah oui?
Ah oui, vraiment.
D'accord.
Alors, elle est partie en 1983, à 20 ans, en Chine, après avoir brillamment terminé ses études aux Beaux-Arts de Toulouse et obtenu une bourse, qui l'a bien sûr aidée à partir.
Y aller, oui, j'imagine.
Voilà. Alors, il ne faut pas oublier qu'en 83, la Chine, hein, c'était l'époque encore marquée des séquelles de la révolution culturelle.
Et, oui,
et le pays était plutôt fermé aux étrangers. Et Fabienne Verdier ne se doutait absolument pas qu'elle allait vivre une expérience incroyablement dure, mais transcendante. Mmh. Et son immersion totale dans la culture et dans l'univers de la calligraphie chinoise va la marquer pour toujours.
Ouais, ça, je ne suis pas vraiment surpris d'entendre ça. Alors, elle est partie où en fait? Et comment elle a vécu là-bas en fait?
Alors, elle avait été acceptée à l'Institut des Beaux-Arts du Sichuan à Chongqing. Donc, une très grande ville, hein, très animée aujourd'hui. À l'époque, okay, c'était pas ça.
D'accord.
C'était une très grande ville, très triste. Et dès son arrivée, elle va être confrontée à un choc culturel et à une hostilité généralisée. D'autant plus qu'elle ne parlait pas encore le chinois. Maintenant, elle le parle couramment,
ouais,
bien évidemment.
Bien sûr.
Alors, ses conditions de vie étaient extrêmement précaires. Elle logeait dans une cité universitaire, hein, on va dire, mais dans une chambre sans confort. Fort, glacial, fait froid en Chine, hein, dans la Chine continentale.
Ça peut, oui.
Et elle va découvrir une société traumatisée où les étrangers sont rares et où la méfiance est omniprésente. Les séquelles de la révolution culturelle, on en a parlé il n'y a pas si longtemps.
C'est ça, c'est pas vrai.
Donc elle va tomber malade plusieurs fois à cause du froid, du manque de nourriture, du manque de soins médicaux. Et pour illustrer ses conditions de vie, hein, je vais raconter un petit épisode de sa vie que je trouve presque, enfin qui est insoutenable. Hein.
Ouais.
C'est un jour épuisée, elle va perdre connaissance dans les latrines de l'université.
Ouais.
Je parle bien de latrines.
Oui, j'ai bien compris.
Et lorsqu'elle s'est réveillée, elle a vu avec horreur que des rats lui rongeaient les orteils.
Ah oui.
Oui.
Ah oui, c'est sympathique.
Oui, oui. Ça résume bien la dureté extrême de sa vie en Chine où elle vivait presque en ascète, entièrement dévouée à son art.
Alors, malgré tout ça, elle va poursuivre quand même alors?
Oui, elle va persévérer et elle va gagner le respect de ses professeurs et de ses camarades.
Mmh.
Et son apprentissage était quand même très strict, hein, basé sur la copie et la répétition, très différent de l'enseignement artistique occidental. On
oui,
est à l'opposé complètement.
Oui, je comprends.
Hein. Alors, pas de place pour la créativité personnelle du tout. Hein, c'est
de la technique pure, quoi.
C'est de la technique pure. Et ce sont aussi de la technique pure, mais aussi des disciplines spirituelles, parce que faut le supporter, tout
oui,
ça.
Bien sûr.
Et une fois qu'on a la maîtrise, eh bien on peut ensuite s'exprimer. Mais on ne peut pas s'exprimer avant de maîtriser.
Mmh.
Et en art chinois, il ne s'agit pas de représenter, mais de capturer l'essence des choses. C'est
oula,
beau quand même.
Oui, oui, j'aime l'idée.
Et peu à peu, Fabienne, elle va comprendre que la calligraphie chinoise est une expression du souffle vital, une manière de capter l'énergie du monde.
Eh bien, et quand elle arrive à ce niveau de compréhension, elle est donc devenue maître en calligraphie à ce moment?
Non, Didier, elle sentait que son chemin était encore long.
D'accord.
Donc elle va rencontrer un maître exceptionnel, hein, qui s'appelle Huang Yuan.
D'accord.
C'était un vieux calligraphe traditionnel, un survivant des persécutions de la révolution culturelle.
Ouais.
Et il va accepter de lui enseigner les secrets de la calligraphie chinoise, mais sous des conditions draconiennes, avec une discipline encore plus stricte que celle qu'elle avait à l'université. Elle se levait à l'aube et puis elle consacrait des heures à son entraînement. Et chaque jour, elle devait répéter inlassablement les mêmes traits de pinceau, sans chercher à innover. Et il fallait voulais qu'elle réapprenne à voir et ressentir le monde autrement. Et bah, en fait, Maître Wang Yuan lui enseignait non seulement la technique, mais aussi la philosophie. Mmh. Et il disait, un bon trait ne se contente pas d'être beau, il doit refléter la force intérieure de celui qui le trace.
Ah oui, quand même. Alors, du coup, combien de temps elle a étudié la calligraphie avec tout ça et elle est devenue... Qu'est-ce qu'elle est devenue après ses études ouais.
Alors, après 7 ans d'apprentissage, elle va devenir...
7 ans,
oui, 7 ans. Mm-hmm. Elle va devenir la première étrangère à obtenir un diplôme supérieur en calligraphie chinoise de l'Institut des Beaux-Arts du Sichuan en 1989. Mm-hmm. C'est récent quand même, hein ? Mais à l'époque, la Chine, c'était pas très ouvert.
C'est ça.
Et c'était une distinction exceptionnelle. Elle était la seule française et la seule européenne,
oui,
on peut le dire.
Je suppose.
Alors son parcours sera même retransmis à la télévision chinoise,
d'accord,
quand même. Hein. Et cette reconnaissance marquera un tournant. Elle n'était plus une simple étudiante, mais devenue une véritable artiste. Et puis, de 89 à 91, elle va occuper le poste d'attachée culturelle à l'ambassade de France, en Chine, bien sûr.
D'accord.
Mais malgré ça, en 92, elle va ressentir le besoin de revenir en France. Mm-hmm. Et ce sera une nouvelle étape dans sa quête de fusionner l'Orient et l'Occident.
D'accord, oui, bien sûr. Et alors, qu'est-ce qu'elle va le faire de cet héritage, une fois en France ? Comment elle va se réinventer ou évoluer ?
Alors, en fait, elle va abandonner la calligraphie académique. Elle en avait assez fait.
Je comprends. En même
et
temps.
Elle va explorer de nouvelles formes de peinture. Elle va intégrer le mouvement, l'énergie et l'intuition dans ses œuvres.
D'accord.
Et c'est dans ce contexte qu'elle va inventer un outil particulier, c'est son pinceau géant, un outil révolutionnaire qui va lui permettre des gestes amples et fluides pour traduire l'essence du souffle vital qu'elle a étudié et qu'elle a trouvé
bien
là-bas.
Sûr.
Alors ce pinceau, il était suspendu au plafond, c'était un énorme pinceau. Hein.
Ah oui.
Le manche faisait plusieurs mètres, elle en avait
d'accord.
plusieurs. Et ce sera son instrument de prédilection et ça va lui permettre de peindre des grandes toiles d'un seul geste puissant. Alors aujourd'hui, son œuvre est reconnue vraiment internationalement.
Ouais.
Ses peintures sont exposées dans des prestigieuses institutions et elle inspire de nombreux artistes et chercheurs. Et voilà, elle est la preuve vivante du dialogue entre des cultures apparemment très différentes.
D'accord. Alors, ce pinceau géant, pourquoi ce pinceau géant en fait ?
Elle va se rendre compte que les pinceaux chinois classiques étaient adaptés au petit format, pas au grand. Et elle voulait faire des grandes
d'accord.
toiles. Et elle ne pouvait pas exprimer la puissance du geste. Elle ne pouvait pas en un seul geste. Mm-hmm. Elle était obligée de faire des petits mouvements pour faire des grandes toiles. Donc non, elle a inventé ce pinceau pour faire ça.
D'accord.
Et elle voulait peindre d'une seule impulsion, avec un seul trait. Et donc il faut un outil qui soit capable de contenir une grande quantité d'encre. Bien sûr. Alors, elle va donc inventer son propre pinceau et l'équiper avec des poulies pour le manipuler et même un vélo. Hein. Elle a même utilisé un vélo pour bouger. Ah oui, elle a tenté pas mal de choses. Et elle voulait se servir de son propre corps pour que le pinceau devienne une extension d'elle-même.
Okay.
Voilà, et bien évidemment, elle a besoin d'une concentration intense pour peindre. Et elle compare son art à l'art du sabre.
Ah, d'accord.
On va y revenir.
C'est
sûrement,
ça, hein. Exactement.
Voilà, donc aujourd'hui, son pinceau est devenu sa signature qui lui permet d'exprimer l'invisible à travers la puissance de son trait et de fusionner, comme je le disais tout à l'heure, l'Orient et l'Occident pour ressentir le mouvement, le souffle, la force vitale. C'est un hommage à la nature, le travail de Fabienne Verdier. Donc voilà, je vous recommande de lire son livre, La passagère du silence, qui a été quand même traduit en 6 langues. On le trouve en poche à 8,40 €.
Alors ?
Et on écoute Blue Eye Samurai, Didier, s'il te plaît.
C'est ça. I look at you all, see the love there that's sleeping. While my guitar gently weeps, I look at the floor and I see it needs sweeping. Still my guitar gently weeps. I don't know why. Nobody told you how to unfold your love. I don't know how someone
you all see the life there that's sleeping, while my guitar gently weeps.
C'était la très belle chanson de l'animé Blue Eye Samurai qu'on trouve sur la lettre N.
D'accord.
Mon Didier,
oui.
Il y a eu des femmes samouraïs. Alors, quel rôle ont-elles joué dans le Japon féodal?
Alors, oui, des femmes samouraïs.
Elles ont existé.
Elles ont
hein.
bien existé, effectivement. Même si l'image des samouraïs évoque plutôt celle de guerriers masculins maniant le katana. Mais le 8e siècle, dès le 8e siècle, ces guerrières, les Onabu Geisha, ont joué un rôle essentiel dans la défense de leur clan. À la guerre et même en politique. C'était le plus souvent des nobles ou des épouses de samouraïs qui avaient reçu un entraînement au combat pour défendre leur foyer en cas d'attaque. Contrairement à l'image d'épouses soumises et cantonnées aux tâches domestiques imposées par le confucianisme, certaines femmes pouvaient donc être formées aux arts martiaux et s'impliquer.
Ça ne devait pas être facile pour elle quand même, Didier, moi je pense. Hein. Dans le Japon féodal, parce qu'il était féodal longtemps.
Voilà.
Alors les femmes étaient plutôt invisibles à cette époque-là, et même encore. Hein.
Tu as raison Corinne, mais le Japon était et toujours une société très patriarcale. Alors le sexisme a longtemps empêché les femmes d'avoir un rôle actif dans leur société, pourtant... Comme les hommes, elles pouvaient aussi avoir une grande force mentale et toutes les vertus
qu'Elisabeth,
dans notre émission du 27 mars, c'est ça, nous avait
déjà
abordé.
Ah oui, Elisabeth Charlot.
Voilà.
Oui.
Le courage, la droiture, la maîtrise de soi, le sens de la justice, la bienveillance, la politesse, la sincérité et le mépris de la mort. Tous les principes réunis du Bushido, le code d'honneur des samouraïs, la voie du guerrier.
Waouh.
Ouais, hein.
Alors donc certaines se sont vraiment bien battues et d'autres se sont impliquées dans la politique.
Tout à fait, oui. Certaines femmes se battaient sur les champs de bataille et d'autres exerçaient leur influence dans la diplomatie ou la gestion de leur domaine. Les épouses des daimyos, les grands seigneurs, jouaient un rôle stratégique. Elles s'occupaient d'arranger des alliances par des mariages, administraient les affaires et leur domaine en l'absence du mari.
Oui, c'est ça. C'était les mariages arrangés pour agrandir le domaine.
Ouais, oui.
Alors, parlons de ces femmes sur le champ de bataille, les Onabu Geisha, c'est ça Didier?
Oui.
Quelles armes utilisaient-elles? Elles utilisaient les mêmes que les hommes?
Alors, elles étaient particulièrement habiles avec les Naginata. Une sorte de lance à longue lame. Comme
Naginata.
Oui, avec une hallebarde, en fait. C'est pour nous qu'on connaîtra mieux comme ça, comme une hallebarde au Moyen-Âge, qui leur permettait de compenser leur éventuel désavantage physique face aux hommes.
Oui,
en fait.
Elles sont petites, les
japonaises. C'est ça. Elles utilisaient aussi le keiken, une dague courte de 15 cm pour le combat rapproché, qu'elles pouvaient cacher dans leurs vêtements. Elles pouvaient bien sûr apprendre et se perfectionner dans toutes les techniques de combat de l'époque féodale. Les premières Una Geisha pratiquaient aussi l'archerie équestre. Ça doit être impressionnant ça,
ah oui.
Mais il faut aussi savoir que peu de ces femmes entraînées ont dépassé le stade de la préparation. Il a fallu beaucoup de temps pour que les chefs de guerre masculins les laissent agir sur les champs de bataille.
Oui, ça m'étonne pas.
Ah oui.
Alors, est-ce qu'il y a des femmes samouraïs vraiment célèbres?
Alors, il y en a eu plusieurs, mais oui. S'il n'y avait qu'un nom à retenir, ce serait probablement celui de Tomoe Gozen ou Dame Tomoe qui a vécu au XIIe siècle.
Ah oui, c'est une vieille histoire.
Oui, elle était l'alliée fidèle de son mari, le général Kiso Noshinaka, du clan des Minamoto. Son courage et ses prouesses ont poussé son mari à la nommer capitaine, devenant ainsi la première femme à ce grade.
Ah oui, quand même, il lui a fait confiance.
Oui, tout de même. On disait qu'elle avait la puissance de combat de 1000 hommes, tout de même, et qu'elle était tellement experte que nul homme ne l'égalait. Alors, en 1181, durant la bataille de Yokota-Kawara, elle aurait tué à elle seule l'intégralité des chefs des troupes d'un clan menant le clan Minamoto à la victoire. Quand même, oui, voilà. L'intégralité, tu l'imagines? Bon,
oui.
C'est peut-être légendaire.
Elle va mourir au combat, cette Tomoe Gozen?
Non, c'est son mari, le général Yoshinaka, qui sera mortellement touché. Il demandera à Tomoe Gozen de ne pas rester auprès de lui pour ne pas avoir honte de devoir mourir auprès d'une femme.
Ah oui, c'était plus fort que lui. Oui,
c'est ça.
Mais bon.
Mais Tomoe Gozen retourna au combat toute seule face à 30 hommes qu'elle tuera et décapitera le capitaine ennemi.
Oui, quand même.
Oui.
Elle devait quand même être très courageuse parce que...
C'est ça.
C'est vrai d'après ce que tu dis.
C'est ça. Elle fuira le champ de bataille en emportant la tête de son adversaire en guise de trophée. La légende raconte qu'elle est ensuite devenue nonne. Et puis, bah, on peut visiter l'endroit de sa tombe à Otsu, dans la préfecture de Shiga, tout près de Kyoto, depuis plusieurs pièces de théâtre Noho et Kabuki racontent aussi sa vie, sans compter les mangas, les jeux vidéo aujourd'hui qui reprennent son personnage.
Donc c'est devenu une icône,
ouais,
cette Tomoe Gozen.
Ah bah avec la vie que je viens de vous
donc
compter.
Donc elle a vraiment existé, Didier.
Bah, voilà. Je...
Est-ce qu'il y en a eu d'autres?
Ah, alors...
Des femmes samouraïs?
Oui, plus près de nous, il y a Nagono Takeko. À la fin du 19e siècle, c'était la dernière guerrière samouraï.
Ah, ça me rappelle quelque chose, sa dernière guerrière. La dernière samouraï. Donc.
C'est ça. Elle est célèbre pour son rôle dans la guerre du Boshin en 1868 à 1869, le conflit qui opposait les forces impériales aux partisans du shogunat de Tokugawa. Ça nous rappelle l'histoire de Jules Brunet,
ah ouais, c'était
le
la
vrai
même
dernier
époque.
Samouraï qui était français. Malheureusement, elle a été mortellement blessée par balle dans la bataille d'Aizu. Avant de mourir, elle avait demandé à sa sœur d'honorer la tradition des samouraïs en lui coupant la tête pour éviter qu'elle ne soit prise par un ennemi. Elle avait 21 ans.
Ok Didier, tu sais que c'est presque fini.
Oui.
Donc on va peut-être s'arrêter à Nagano Takeko.
C'est ça.
Pour rappel, Elisabeth, elle nous avait parlé de ce qu'était une femme samouraï.
Je vous invite à réécouter l'émission.
C'est celle du 27 mars, c'est ça ?
C'est ça.
Et puis bah, c'est la prof de japonais de la MJC préfère,
voilà,
Elisabeth. Hein, n'oubliez pas de vous inscrire pour la rentrée de septembre.
C'est ça.
Bon, Asialogie, c'est fini les amis.
Oui.
Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook, nous réécouter le samedi matin 9h30 et bien sûr aussi en podcast sur radioalpa.com. Rendez-vous jeudi prochain à 12h. Et avec plaisir,
c'est
comme
ça.
Toujours.
Et surtout, passez une bonne semaine à la semaine prochaine.
Très bonne semaine à tous, salut.